Bonne feuille. Car autrement de la rentrée littéraire, lu par leur auteur. Aujourd'hui, un amour impossible de Christine Angot.
Donc le début de La princesse de Clèves. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants.
Qu'est-ce que vous attendez, Christine Angot, de la première phrase d'un texte ?
Je ne sais pas ce que j'en attends, je ne peux pas savoir ce que j'en attends. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on m'installe, quoi. Je suis installée. On m'installe, on s'occupe de moi. On me dit, voilà, ça va se passer comme ça, installe-toi, ok ? Je m'en occupe, de tout. C'est une question de préparation, c'est-à-dire on me prépare, on me dit, bon, attends, pour que tu comprennes bien, je vais déjà te dire tout ce qu'il y a autour, hein. Parce qu'il ne faut pas que tu crois que les deux, là, ils s'aiment comme ça et qu'il n'y a rien à savoir autour. Non, non. Il faut que tu vois bien les choses autour. Hein. Alors voilà. Donc on me parle on me parle d'un roi, on me parle pas de n'importe qui, on me parle de tout un tas de gens qui sont des rois, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est une espèce de liste comme ça, magnificence, galanterie, éclat. N'ayez pas peur de, avec tant d'éclat, et ça se termine pas. Éclatant. Et donc, on va me parler de gens tous plus élégants, tous plus beaux les uns que les autres, raffinés, intelligents. Voilà. C'est pas une personne en vaut une autre. Non, chacun a son pédigré. Chacun est quelqu'un. En fonction d'une identité, mais voilà, chacun est particulier. En fonction de la généalogie, en fonction des quartiers de noblesse, bon, etc. Mais tout ça nous conduit à nous approcher d'une manière extérieure. On s'approche d'une manière extérieure de gens qui sont animés par quelque chose intérieurement. Et puis, tout ça pour m'amener à un qui, parmi tout cela, se distinguait.
Hein ? Alors, approchons-nous d'un amour impossible. Votre nouveau texte, Christine Angot, qui paraît aux éditions Flammarion.
Mon père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, près de l'avenue de la gare, dans la cantine qu'elle fréquentait. À 26 ans, elle était déjà à la sécurité sociale depuis plusieurs années. Elle a commencé à travailler à 17 ans comme dactylo dans un garage. Lui, après de longues études, à 30 ans, c'était son premier poste. Il était traducteur à la base américaine de la Martinerie. Les Américains avaient construit entre Châteauroux et Levroux un quartier qui s'étendait sur plusieurs hectares, de petites maisons individuelles de plein pied, entourés de jardins, sans clôture, dans lesquels les familles des militaires vivaient. La base leur avait été confiée dans le cadre du plan Marshall, au début des années 50. Quelques arbres y avaient été plantés, mais quand on passait devant, de la route, on voyait une multitude de toits rouges à quatre pentes, disséminés sur une large plaine sans obstacle. À l'intérieur de ce qui était un véritable petit village, les allées, larges et goudronnées, permettaient aux habitants de circuler dans leur voiture au ralenti, entre les maisons et l'école, les bureaux et la piste d'atterrissage. Il y avait été embauché à sa sortie du service militaire, il n'avait pas l'intention de rester. Il était de passage. Son père, qui était directeur chez Michelin, voulait le convaincre de travailler pour le Guide Vert. Lui se voyait bien faire une carrière de chercheur en linguistique ou d'universitaire. Leur famille habitait Paris depuis des générations, dans le 17e arrondissement, près du parc Monceau, était issu de Normandie. De père en fils, on y avait souvent été médecin. On y était curieux du monde, on y avait la passion des huîtres. Il l'a invité à prendre un café, et quelques jours après à danser. Ce soir-là, Elle devait à un bal dit de société avec une amie. Nous sortirons ensemble un autre soir. Je vais rester chez moi, j'ai du travail. Elle y est allée avec son amie, Nicole, et le cousin de celle-ci. La soirée était déjà bien entamée quand, au loin, à travers la foule, elle l'a vu se frayer un chemin. Il avançait vers leur table. Il l'a invitée à danser. Elle s'est levée. Elle portait une jupe blanche avec une ceinture large. Ils se sont faufilés en direction de la piste. En arrivant sur le parquet, il a souri. Elle était prête à se glisser dans ses bras. Il a pris sa main pour la guider et la faire évoluer parmi les danseurs. À ce moment-là, l'orchestre s'est mis à jouer les premières mesures de « Notre histoire, c'est l'histoire d'un amour ».
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de cœur. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs.
C'était une chanson qu'on entendait partout. Dalida venait de la créer. Elle la chantait avec intensité, en mêlant le tragique à la banalité. Son accent oriental arrondissait les mots, les étirait en même temps. Sa voix grave enveloppait les sons et leur donnait une substance particulière. L'ensemble avait quelque chose d'envoûtant. Et pour mieux emporter les gens, la chanteuse de l'orchestre se coulait dans l'interprétation d'origine. Notre histoire, c'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Ils ne se parlaient pas. C'est l'histoire qu'on connaît. La piste était pleine, c'était une chanson très connue. Ceux qui m'aiment jouent la même, je le sais. Ma complainte, c'est la complainte de deux cœurs. C'est un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Pendant toute la chanson, ils se sont tus.
Avec l'heure où l'on s'enlace, c'est où l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Et tragique ou bien profonde, c'est la seule histoire du monde. Il ne finira jamais, c'est l'histoire d'un amour.
Ils ne se regardaient pas.
Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule histoire du monde. Notre histoire, c'est l'histoire d'un amour.
Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de
La chanson s'est terminée. Ils ont repris de la distance et ils ont traversé la salle en direction de la table. Elle lui a présenté Nicole et son cousin. Ils ont commencé à se voir. Ils allaient au cinéma, au restaurant, à des soirées dansantes. Le week-end, ils sortaient, ils louaient une voiture et ils partaient. Les jours de semaine, ils passaient la chercher à son bureau ou bien il allait chez elle. Très vite, ils se sont vus tous les jours. Elle découvrait un monde d'intimité, de paroles constantes, de questions, de réponses. La moindre impression était fouillée, personnelle et détaillée. Les détails inattendus, les mots nouveaux, les comparaisons surprenantes, inédites, à contre-courant, osées. Des idées qu'elle n'avait jamais entendues exprimer. Il balayait les convenances d'un air naturel et il décrivait tout ce qu'il voyait. Les lieux qu'il traversait, les paysages dans lesquels il marchait, les gens qu'il croisait, avec une précision telle que ça gravait ce qu'il disait en elle. Il lui expliqua qu'il avait fait le choix de la liberté. Il ne critiquait pas la façon dont les autres vivaient, mais il s'en écartait. Certaines choses le mettaient hors de lui. D'autres qui la choquaient, le faisaient rire ou l'attendrissaient. Dieu, qu'elle avait toujours pensé au-dessus d'elle, n'existait pas pour lui. La religion était faite pour les esprits faibles. À l'époque, c'était un sujet qui importait. Pour avoir la paix, il suffisait de faire une ou deux concessions à la société. Ça avait le double avantage de ne pas blesser les gens et de récolter le moment venu ce qu'ils avaient à vous apporter. Elle mettait les propos qui la dérangeaient sur le compte de sa personnalité non conventionnelle. Il s'arrêtait au milieu d'un sentier, la regardait et soulignait la singularité de son intelligence, en amoureux et en expert. Il parlait d'elle avec la même passion que d'un auteur qu'il admirait. La pertinence de ce qu'elle disait n'avait rien à voir pour lui avec le fait qu'elle n'ait pas fait d'études. Il dressait une liste de gens instruits qui étaient des imbéciles, en dépit de leur position publique élevée. Pour la faire profiter de son expérience, il lui expliquait qu'il fallait les flatter, car pour vivre libre, il fallait être seul, et seul à savoir qu'on l'était. La radio était allumée, tout à coup il se mettait en colère. Il critiquait les propos qu'on y entendait, des otages, pleurant à chaudes larmes, demandant à leur pays d'origine de les sauver. Il les méprisait de faire prévaloir l'intérêt personnel sur l'intérêt public. D'une manière générale, les sentiments collectifs le laissaient froid, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre qui causaient des milliers de pertes humaines. Tout ça était pris dans les statistiques. Ça ne comptait pas au titre d'information. C'était la première fois qu'elle entendait ça. Il la regardait fixement sans battre un cil, jusqu'à ce que, d'émotion, il soit obligé d'abaisser les paupières, bouleversé par son sourire. Elle avait un sourire doux, mais jamais naïf. Son visage était rayonnant, mais réservé. Ses yeux étaient vifs, verts, pétillants, mobiles, mais fragiles, petits, cassés. Il lui parlait de la hauteur de ses pommettes, de la franchise de ses traits, de l'élégance de ses lèvres, de ce sourire qui transformait tout, et de son cou, de ses épaules, de son ventre, de ses jambes, de la douceur de sa peau, en cherchant le mot qui collait à ce qu'il voyait. Il se concentrait sur la sensation que ses mains éprouvaient quand il la caressait. Ses doigts s'attardaient sur une zone précise pour trouver quelle matière exacte la texture de ce petit espace évoquait. La soie, c'est de la soie, ta peau. La lecture de Nietzsche avait bouleversé sa vie. Après avoir fait l'amour, il lui en lisait couché quelques pages. Elle posait sa tête dans le creux de son épaule. La joue sur son torse, elle écoutait. Puis ils sortaient. Ils allaient dans la forêt du Poinçonnet. Ils marchaient dans les allées en se tenant par la main. Ils se sont connus à la fin de l'été.
Elle a une jupe blanche avec une ceinture noire, on l'a bien entendu. Il y a dans tout le texte, et à la lumière de ce que vous nous disiez sur la princesse de Clèves, on l'entend encore plus, une précision absolue de tout sur tout. C'est ça le travail d'orfèvre ?
Je ne sais pas s'il y a une précision de tout sur tout. Mais quand on voit quelqu'un, ou quand on voit quelque chose, est-ce qu'on voit un ensemble ? Je ne sais pas. Oui, on voit un ensemble. Mais on voit aussi, il y a aussi des détails qui nous frappent, qui permettent de qualifier, de dire, enfin, on fait tout ça. Elle était coiffée comme ça, elle avait ça, il avait un truc, enfin bon, voilà. Donc, bon. Donc, c'est pas une précision sur tout. Mais enfin, en effet, des détails, je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, hein, mais c'est comme ça. Il y a des détails qui fixent les moments. Les choses comptent pour dire où on est, quand on est. Oui, on s'accroche à tout un tas de détails. Dès qu'on ressent quelque chose, dès que quelque chose est en train de se passer, on est quasiment jamais dans la réflexion. Au moment où on est en train de percevoir, de vivre une situation, en revanche, on est dans le détail. Tiens, il est habillé comme ça. Ou tiens, il marche vite, ou... Enfin voilà, des choses comme ça. C'est... On a le choix, en fait. Hein. Ou on raconte quelque chose, ou on le rend présent. Alors on peut le raconter, mais alors à ce moment-là, si on le raconte, il faut qu'on fasse très attention, parce que si on le raconte, on va interpréter. On va commenter. On va être du haut de notre... voilà, les choses se sont passées il y a longtemps, et donc le temps nous aurait autorisé à commenter le passé. Sous prétexte qu'on serait 30 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, ou 100 ans, ou 150 ans, on s'estimerait qualifié pour dire ce qu'on pense des moments. Bon, c'est une option possible. Parce que les moments passés sont présents. Donc, bien se rendre compte de ça. Bien se rendre compte que les choses ont été vécues par des personnes qui sont vivantes, qui ont voilà, les mains froides, les doigts froids, qui marchent sur une piste de danse, qui arrivent, qui se sont habillés comme ça... qui sont dans des affects, tout ça. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, près de l'avenue de la gare, etc., dans la cantine qu'elle fréquentait. Cette phrase-là, qui est extrêmement banale, n'est pas venue comme ça. Je peux vous le dire. Alors vraiment, elle s'est fait attendre. Hein. Parce que c'est très simple. Hein. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Châteauroux, je me suis dit, mais comment j'ai mis 2 mois à trouver cette phrase? Comment? Et quand j'étais avec cette phrase, alors voilà, je savais que c'était vraiment la première phrase de ce livre. Mais il y en a eu des débuts avant celui-là. Il y en a eu.
Et néanmoins, c'est celui-là qui finalement a déclenché tout le livre. Ou elle est venue
c'est-à-dire
après?
Il est venu après, c'est-à-dire que les autres... Ah non, ça a donné naissance au livre, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce début, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, parce que... Pourquoi? Parce que pour trouver le début, qu'est-ce qu'il faut trouver avant tout?
Dites-moi.
Il faut trouver la place du narrateur ou de la narratrice. Première des choses à trouver, c'est ça. Une fois que j'ai pas trouvé ça, j'ai rien trouvé, en fait. Je tournicote, je me mets là, je me mets là, je me mets partout. Il n'y a pas une chaise qui va. il faut en changer tout le temps. Il n'y en a pas une qui permet d'être installée, de voir les gens qui sont en train de lire et de produire... ce qu'il y a à produire, hein, c'est-à-dire bon, tout ça. Mais moi, il faut que je me place quelque part. Il faut que ma narratrice se place quelque part. Alors, je peux commencer, je peux dire, je suis née, ma mère faisait ci, mon père faisait ça. Bon, je peux faire ça si je veux. Mais on n'a pas besoin de moi, là. On n'a pas besoin de moi, je suis pas née, personne pense à moi, c'est quoi, je vais pas m'inviter là comme ça, débarquer là, bon. En fait, j'ai eu plein de débuts pendant environ 2 mois et j'étais très contente. Ah, celui-là est formidable, ça, c'est bon, celui-là, je l'ai. Bon, je commence, boum, je cale. J'arrive pas à la deuxième scène. Donc voilà, là, c'est cette simplicité, mon père et ma mère se sont rencontrés, c'est-à-dire le couple des parents. Et oui, les parents était un couple. C'est ça aussi que ça dit.
C'était Christine Angot qui présentait son roman Un amour impossible, qui paraît aux éditions Flammarion.
Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Jean Frédérix.